cette deuxième session, on va parler des déterminants non caloriques de l'obésité. Et effectivement, il faut avoir une vision générale pour ça. Et parmi ces déterminants non caloriques de l'obésité, il y a les perturbateurs endocriniens. Et pour parler des perturbateurs endocriniens et avoir un avis précis, solide, eh bien, il faut avoir une expertise très solide. Et c'est pour ça que, bien écoutez, très content d'accueillir les chercheurs de l'INSERM pour nous parler de différents aspects et puis de l'aspect épigénétique aussi, qui est tout à fait fondamental maintenant. Donc, je vais passer la parole à Gilles Nalbonne, qui va nous parler du changement de paradigme. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a 2 ans déjà, ici même, on avait amorcé les choses. Et je crois que Gilles Nalbonne, qui est directeur de recherche émérite à l'INSERM, a une vision très, très pertinente des choses et très, très pédagogique.
J'espère. Merci, Laurent. Bonjour. Donc, effectivement, je vais vous faire, disons, une présentation un peu généraliste de ce que sont les perturbateurs endocriniens. Donc, tout d'abord, poser un petit peu le décor. L'homme et les écosystèmes sont exposés aux perturbateurs endocriniens. Il existe environ, disons, 100 000 molécules de synthèse qui sont sur le marché. Et on estime qu'entre 1500 et 3000 molécules posent problème pour la santé. Et parmi ces molécules-là, ces 3000 molécules, on estime à environ à peu près 800 molécules de type perturbateur endocrinien, c'est-à-dire qui donc exercent un effet de perturbation endocrine sur le métabolisme hormonal. Alors, cette quantité énorme de molécules chimiques, effectivement, entraîne une contamination avéré et quasi généralisé donc des organismes vivants par les PE, donc par les perturbateurs endocriniens, et ça inclut effectivement d'abord bien sûr tous les écosystèmes, mais aussi l'homme. Et donc ça, ce n'est pas sans conséquences environnementales et sanitaires. André Cicolella et Étienne Cagnard l'ont exprimé en introduction. Effectivement, on assiste à une augmentation dramatique de l'incidence des pathologies, des affections de longue durée. Et je crois qu'effectivement, on ne peut plus continuer à rester sur les explications que l'on a eues jusqu'à présent, qui sont que cette augmentation des pathologies serait due au vieillissement de la population ou serait due à des facteurs génétiques. Non, certains cancers, par exemple, on ne peut pas se retrancher derrière le vieillissement des cancers. Je pense en particulier les cancers chez le jeune enfant, chez l'enfant, les cancers du testicule qui caractérisent un cancer chez l'homme jeune, d'autres pathologies comme des malformations congénitales, etc., qui sont de plus en plus prégnantes. Donc, on ne peut pas se retrancher derrière, effectivement, uniquement un problème de vieillissement, qui, certes, effectivement, est un facteur, mais ce n'est pas une explication suffisante. Les facteurs génétiques, certes, il y a des prédispositions génétiques qui font que, effectivement, certaines personnes vont être beaucoup plus ou moins susceptibles à développer telle ou telle pathologie, mais ce patrimoine génétique, le patrimoine génétique de l'homme, n'a pas évolué depuis 50 ans, de la façon que ça pourrait expliquer effectivement cette augmentation très rapide des pathologies. Donc on a un patrimoine génétique qui effectivement est resté relativement stable, à quelques exceptions près, est resté relativement stable depuis 50 ans. Donc effectivement, c'est bien dans l'environnement, là par contre ce qui a changé effectivement, c'est notre environnement, je viens de le dire, c'est notre environnement et en particulier donc notre exposition aux perturbateurs endocriniens. Et je dirais que les perturbateurs endocriniens ont été un petit peu la partie invisible de la toxicologie, de la toxicité des produits chimiques. Partie invisible en termes d'identification de perturbateurs endocriniens. Partie invisible en termes d'exposition. Et partie invisible jusqu'à présent en termes d'effets. Alors on commence maintenant, effectivement, les progrès de la recherche nous permettent de mieux comprendre, effectivement, un petit peu cette importance qu'ont les perturbateurs endocriniens en termes de toxicité et en termes d'impact sur la santé. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le dernier rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement et l'OMS, et aussi de nombreuses publications scientifiques, bien sûr. Les perturbateurs endocriniens seraient impliqués dans la forte progression observée depuis environ 50 ans de certaines pathologies qui sont sous le contrôle des régulations endocrines. Donc on trouve des cancers hormonodépendants, des dysfonctions thyroïdiennes, des troubles neurocomportementaux, des troubles de la reproduction, des troubles du développement, des troubles immunitaires, syndrome d'hypersensibilité chimique, et ce qui nous intéresse donc plus particulièrement aujourd'hui, les maladies métaboliques, donc effectivement Claudine Junien, Robert Barocchi et Rémi Slama qui vont me suivre en parleront beaucoup plus en détail. Alors, un exemple effectivement, de perturbateur endocrinien, de triste mémoire, c'est le distilbène, qui était une hormone de synthèse qui était administrée pour prévenir les fausses couches dans les années 60-70. Juste pour mémoire, entre parenthèses, le distilbène a été choisi à la place du bisphénol. Donc tout ça pour vous dire l'importance de perturbation endocrine que représente le bisphénol A. Alors, cette hormone de synthèse, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets extrêmement dramatiques chez la première descendance féminine, avec des anomalies de l'appareil reproducteur, des cancers du sein, des adénocarcinomes vaginales à cellules claires et aussi le phénotype d'obésité. Et, chose plus grave, on constate déjà chez la deuxième descendance, c'est un travail de l'équipe de Charles Sultan à Montpellier, qui montre donc chez la descendance masculine des effets, des risques d'hypospadia avérés. Donc là apparaît la notion effectivement d'effet transgénérationnel dont parlera tout à l'heure Claudine Junien. Alors, pour parler des perturbateurs endocriniens, il faut définir ce que c'est un perturbateur endocrinien. Alors, il y a plusieurs définitions qui existent, effectivement, et on va voir que, effectivement, la définition d'un perturbateur endocrinien, eh bien, se cache derrière, enfin, disons pas que se cache, mais derrière la définition d'un perturbateur endocrinien, il y a effectivement des enjeux à la fois réglementaires, des enjeux économiques et des enjeux sanitaires. Alors, il y a plusieurs définitions qui ont été données. Alors, j'en retiendrai deux, qui résument un petit peu le débat qui est actuellement sur la définition d'un perturbateur endocrinien. Une définition, disons, qui serait basée sur la spécificité de l'effet des perturbateurs endocriniens. Alors, c'est une définition qui a été donc développée par l'OMS lors de son programme international sur la sécurité chimique. Donc, en 2002, un perturbateur endocrinien est une substance exogène, seule ou en mélange, qui modifie les fonctions du système endocrinien et provoque par voie de conséquence, c'est très important, par voie de conséquence, des effets néfastes sur la santé chez des organismes sains, chez les sous-populations et chez la descendance. Donc là, vous voyez qu'il y a un aspect de relation entre un dysfonctionnement du système endocrinien et des effets, une causalité sur, effectivement, sur la santé. Et puis l'autre définition qui résume une autre position, qui a été édictée par l'Agence d'environnement américaine, qui a été reprise par la Société d'endocrinologie américaine, l'Endocrine Society, et puis par certaines ONG environnementales, dont le REST, le HEAL et d'autres ONG environnementales, qui est donc basée, je dirais, sur la sensibilité, beaucoup plus en accord avec le principe de l'endocrinologie. Ça, c'est un coup des perturbateurs endocriniens. Donc, un perturbateur endocrinien est une substance naturelle ou synthétique qui, lors d'exposition environnementale ou développementale inappropriée, modifie les équilibres hormonaux et les régulations homéostatiques qui permettent à l'organisme de communiquer avec son environnement et d'y répondre. Donc là, vous voyez que dans cette définition, il n'y a pas d'aspect de relation immédiate, de relation avec le développement d'une pathologie. Il n'y a pas donc cette notion de causalité. Ça laisse la porte ouverte donc à une définition beaucoup plus souple de ce qu'est un perturbateur endocrinien. Tout à l'heure, en début d'après-midi, donc Yannick Vicaire vous parlera beaucoup plus en détail justement de cet aspect-là, de la définition et des aspects réglementaires d'un perturbateur endocrinien. Alors, effectivement, quelle priorité pour définir un perturbateur endocrinien ? Donc, dans la définition première, qui est celle donc, qui implique une spécificité, effectivement, donc, nous avons des critères d'inclusion de PE qui sont de perturbateurs endocriniens, des critères qui sont élevés. C'est-à-dire que, effectivement, dans la mesure où vous associez une perturbation endocrine avec une pathologie, vous allez effectivement avoir un critère très élevé, très spécifique de ce que va être un PE. Très bien. Mais avec ce critère-là, vous avez quand même néanmoins un risque certain d'exclusion de perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que vous risquez d'éliminer des faux négatifs. Vous pensez que ce n'est pas un perturbateur endocrinien parce qu'on ne voit pas immédiatement quel peut être l'effet néfaste. Ça suppose effectivement la définition de ce que va être un effet néfaste pour l'organisme. Cette définition, donc, risque de conduire à l'exclusion de perturbateurs endocriniens qui, en fait, ne le sont pas. Qui, en fait, le seraient, pardon. Donc, c'est ce que, donc, une élimination, donc, ce serait les faux négatifs. Cette possibilité-là de lien entre la perturbation endocrine et un effet sur la santé, effectivement, laisse la porte ouverte aussi à des interprétations sur l'effet sur la santé. Est-ce que ce sont des effets forts? Est-ce que ce sont des effets plus ou moins forts? Donc, une notion de sévérité, et là, ça peut laisser la porte ouverte encore à une restriction beaucoup plus importante en termes de définition de ce que va être un perturbateur endocrinien. Et donc, effectivement, on est dans une situation où la protection sanitaire et environnementale est relativement modérée avec ce type donc, de définition d'un perturbateur endocrinien. Et donc, je dirais à l'opposé, si nous adoptons une définition d'un perturbateur endocrinien basée sur la sensibilité, alors effectivement, les critères d'inclusion des perturbateurs endocriniens seront moins élevés. On risque, donc ce sera basé sur le principe de l'endocrinologie. Alors, effectivement, le risque est d'inclure, si vous voulez, des substances qui ne sont pas des PE, parce que, effectivement, le critère d'inclusion est beaucoup moins sévère. Mais après tout, est-ce que c'est vraiment un risque d'inclure des perturbateurs endocriniens qui ne le sont pas? Est-ce que c'est vraiment un risque par rapport à ici, à exclure dans ce protocole-là, d'exclure des perturbateurs endocriniens qui le seraient. Donc, nous sommes donc plus dans ce domaine-là de la sensibilité, nous sommes plus donc dans un principe de précaution, de protection sanitaire, environnementale élevée, lorsque l'on se base sur une définition d'un perturbateur endocrinien basé sur la sensibilité, on est plus dans donc des critères de régulation endocrinienne et physiologique. Alors, les voies d'exposition au PE, elles sont nombreuses. Tout d'abord, l'exposition de type alimentaire, par voie alimentaire. L'eau aussi, donc la dernière étude qui est parue dans 60 millions de consommateurs, effectivement, montre une contamination de certaines eaux par les perturbateurs endocriniens. La voie aérienne contribue aussi également à une exposition à des perturbateurs endocriniens à travers effectivement, les pollutions atmosphériques, les voitures et aussi à travers les épandages de pesticides. Et puis, donc, une autre voie d'exposition qui est la voie dermique, à travers, donc, surtout à travers les cosmétiques. On vient de le voir dans la dernière étude de Que choisir, mais ça, c'était pas nouveau, on le savait, mais quand même, montre clairement la présence de perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, dans les gels, etc. Donc, ces trois voies constituent effectivement l'exposition de l'homme aux perturbateurs endocriniens. Alors, les principales familles de perturbateurs endocriniens, je vais passer vite parce que là, on en aurait pour longtemps, mais donc il y a différents types de classements, mais on peut choisir ce type de classement, même si ce n'est pas vraiment un classement absolument rigoureux, mais il y a ceux qui sont persistants et bioaccumulables, comme les pesticides insecticides, les dioxines, furanes et les benzopyrènes, qui sont des produits de combustion, les PCB, les composés perfluorés qui font partie des revêtements anti-adhésifs ou dans certains tissus imperméables, etc. Les antibactériens, les polybromés retardateurs de flamme que l'on trouve dans les literies, les alkylphénols, les organostaniques et certains métaux lourds aussi sont donc classés comme perturbateurs endocriniens. Parmi ceux qui sont moyennement ou peu bioaccumulables, on retrouve le bisphénol A, les phtalates, les parabènes, les pesticides organophosphorés, les pyréthrinoïdes, certains résidus médicamenteux et aussi les phytoestrogènes qui sont des perturbateurs endocriniens d'origine naturelle. Alors, les mécanismes d'action des PE, comment agissent-ils? Eh bien, ce sont des molécules qui, effectivement, vont lier les récepteurs naturels des hormones, alors estrogènes, androgènes, thyroïdiennes. et d'autres récepteurs membranaires, je vais pas vous les donner tous en détail, des récepteurs membranaires et nucléaires. Et également, donc, les perturbateurs endocriniens sont capables de lier des protéines intracellulaires sur lesquelles aussi se fixent les hormones naturelles. Ce sont des protéines de transport, voire aussi des enzymes. Et donc, la conséquence de toutes de ces propriétés-là des perturbateurs endocriniens sont que ces molécules-là vont agir comme un mime, comme un leurre vis-à-vis des hormones, et donc vont interférer avec le métabolisme des hormones en termes de synthèse, en termes d'élimination, en termes de transport. Et ça, bien sûr, de manière illicite dans l'espace, dans le temps. Et donc, ça se comporte, comme je l'ai dit, comme des leurres hormonaux. Alors, la conséquence, c'est qu'effectivement, bien, les perturbateurs endocriniens vont agir à différents niveaux dans l'organisme. Donc, au niveau, donc tous les organes qui sont donc sous régulation de régulation endocrine, donc le cerveau, le cœur, donc vous voyez ici mentionner les différents organes qui vont être sous le contrôle, les organes reproducteurs, etc., etc. Et bien sûr, le tissu adipeux. Alors, changer de paradigme. La toxicologie classique nous a dit depuis très longtemps, hein, c'est Paracelse au XVIe siècle, qui nous disait la dose fait le poison. Alors ça ne marche pas comme ça avec les perturbateurs endocriniens, ce serait trop simple. Il y a plusieurs paramètres qui vont caractériser effectivement la toxicité d'un perturbateur endocrinien. Ce sont tout d'abord l'effet des faibles doses. Qu'est-ce qu'on entend par faible dose ? Bien, ce qu'on entend par faible dose, ce sont bien souvent des doses qui sont très inférieures aux doses journellement admissibles données pour certains perturbateurs endocriniens. Je vous dirais par exemple, à titre d'exemple, le bisphénol A, la DGA est à 50 microgrammes par jour par kilo. On voit des effets du bisphénol A au niveau du nanomolaire, c'est-à-dire plus de un million de fois plus bas que ce que pouvait être la DGA. Une faible dose, ça peut être également aussi des doses qui sont étudiées au niveau de au niveau de l'imprégnation humaine, c'est-à-dire la concentration d'un polluant dans les milieux fluides, donc organiques. Donc, ce qui est important, c'est que effectivement, ces perturbateurs endocriniens sont capables d'agir à de très faibles doses. Deuxième chose, les réponses non monotones. Une réponse non monotone, c'est-à-dire une réponse qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a un changement de signe dans la courbe dose-réponse, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une courbe qui va être positive puis devenir négative. Et donc ça, ça amène, si vous voulez, des effets assez particuliers, puisque bien souvent, on observe, pour certains perturbateurs endocriniens, on observe des effets qui sont plus forts à faible dose qu'à forte dose. Et un autre paramètre très important, donc c'est l'effet cocktail, c'est-à-dire l'effet, nous ne sommes pas imprégnés que par un seul polluant. Malheureusement, nous tous dans cette salle, moi y compris, nous sommes imprégnés de plusieurs polluants. Des analyses ont été faites, à peu près une quarantaine, cinquantaine de polluants en moyenne sont présents dans notre corps. Quid de ce mélange de polluants dans notre corps ? Eh bien, effectivement, il y a un effet cocktail qui se passe, c'est-à-dire qu'on est incapable de prédire ce que peut donner un seul polluant lorsqu'il est en mélange. C'est-à-dire que, pour simplifier, je veux dire que 0 plus 0 plus 0, ce n'est pas égal à 0, c'est égal à un certain effet que l'on peut mesurer. Et un autre paramètre très important, donc Claudine tout à l'heure nous en parlera beaucoup plus en détail et mieux que moi, c'est la fenêtre d'exposition, c'est-à-dire la période pendant laquelle l'exposition aux perturbateurs endocriniens va jouer un rôle très important sur la survenue des pathologies plus tard à l'âge adulte. Ce sont à travers des modifications épigénétiques qu'exercent les perturbateurs endocriniens sur notre génome. Alors ce ne sont pas des mutations. Ce ne sont pas des mutations du gène, ce sont des modifications épigénétiques autour du gène. Donc, ce sont des modifications chimiques qui vont altérer le fonctionnement, l'expression de nos gènes. Et donc, ces modifications-là se font essentiellement durant la période prénatale et donc, effectivement, conduisent à une latence entre l'exposition et l'apparition de la pathologie. C'est un petit peu, pour prendre une image assez grossière, c'est un petit peu des bombes à retardement qui sont placées comme ça sur notre génome et qui vont peut-être exploser plus tard dans la vie à l'occasion de conditions défavorables. Et donc, c'est ce que les scientifiques dénomment désormais les origines développementales de la santé et des pathologies chez l'adulte. Alors, les réponses non monotones des perturbateurs endocriniens, donc la toxicologie classique, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien, effectivement, lorsqu'on augmente, on a une relation linéaire entre la dose et la réponse. Eh bien, évidemment, à partir de ce moment-là, lorsque l'on a un effet à une certaine dose, on est capable de pouvoir, par extrapolation, donner une idée de ce que sera la réponse à faible dose. Avec la perturbation endocrinienne, c'est un tout autre phénomène qui se passe. Vous voyez que vous pouvez avoir ici, c'est quelques exemples, hein, vous pouvez avoir ici des effets en cloche, des effets en U, la réponse donc en fonction de la dose, et vous voyez ici des effets multiphasiques, donc en fonction de la réponse en fonction de la dose. Donc vous imaginez déjà la difficulté de pouvoir prédire, l'effet d'une molécule à faible dose. C'est ce qu'on va voir ici sur cette diapositive suivante. Imaginons que nous ayons un perturbateur endocrinien qui va répondre à ce type-là de dose. Imaginons que nous raisonnions dans la toxicologie classique. Nous avons ce type-là d'effet ici. On va définir ici, on définit une dose qui est la dose à laquelle on n'observe plus d'effet. Ce qu'on appelle la Noël en termes anglo-saxons, dose à laquelle on n'observe plus d'effet. Et comme les toxicologues sont des gens très sérieux, on va appliquer un facteur 100 ou un facteur 1000 de sécurité et en se disant, bien, si on se place ici, on est tranquille, on n'aura pas d'effet de notre polluant. Eh bien, vous voyez que ce n'est pas du tout ce qui se passe avec le perturbateur endocrinien, puisque si vous êtes dans ce style-là d'effet, eh bien, vous apercevez qu'à la dose soi-disant sûre, eh bien, vous avez ici un effet. Et c'est bien ce qu'on observe, par exemple, avec le bisphénol A, où on pensait qu'à des doses largement inférieures à la DGA, eh bien, on n'avait pas d'effet. Eh bien, au contraire, on observe des effets très significatifs à de très faibles doses. Alors, les hormones naturelles, EPE, je suis à la bourre. Bon, alors je vais passer très vite. C'était pour juste vous montrer la similitude qui existe dans les réponses non monotones entre les hormones naturelles et les perturbateurs endocriniens. Juste cet exemple-là, l'effet du bisphénol sur une chémokine produite par le tissu adipeux, la diponectine, qui a des effets vasoprotecteurs. Vous voyez ces effets en U. Ici, l'effet du bisphénol sur la production d'insuline. Des régulations biologiques sous l'influence des réponses non monotones. Donc, vous voyez que l'exposition en fonction, donc ici la réponse en fonction de l'exposition, ça c'est dans le cadre d'études épidémiologiques. Vous voyez que suivant le type de la nature de l'exposition, on peut passer totalement à côté de certains effets. Si on se place à une exposition ici ou si on se place à une exposition là, on peut passer totalement à côté des effets. Donc, l'extrême difficulté avec les perturbateurs endocriniens dans les études épidémiologiques d'établir un lien entre la pathologie et l'imprégnation. Néanmoins, donc, vous voyez ici, à travers ces quelques études, vous voyez, on retrouve encore ces effets biphasiques d'imprégnation, des relations entre l'imprégnation en polluant. Ici, c'est les pesticides. Ici, c'est un PCB. Ici, c'est un métabolite d'un pesticide. On voit des effets sur l'IMC, je ne vois plus exactement, sur la triglycéridémie, etc. Donc, des effets particuliers des perturbateurs endocriniens sur ces paramètres métaboliques. Alors les mécanismes, bon, il y a différents mécanismes qui peuvent expliquer ces réponses non monotones. Je passe dessus. Et donc, en conclusion, donc, je dirais que l'identification du caractère des PE doit être faite donc effectivement sur la base des critères de sensibilité basés donc sur l'endocrinologie, faible dose, réponse non monotone, effet cocktail, et non sur ceux de la toxicologie classique. Bien sûr, nécessité de développer la recherche dans ce domaine pour améliorer d'une part l'identification de perturbateurs endocriniens, définir des tests, des moyens pour effectivement détecter l'activité endocrinienne, donc nécessité d'une recherche pointue là-dessus. Et effectivement, tout ça, ça remet en question ce que je vous ai montré tout à l'heure sur cette courbe avec la réponse entre la dose, la réponse dose-réponse. Eh bien, effectivement, ça remet en question la pertinence d'une DGA pour les perturbateurs endocriniens. Lorsqu'on entend très souvent dans les médias, à la radio, à la télé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude puisque les tel ou tel polluant est en dessous des normes. Que veut dire une norme lorsqu'on sait qu'un perturbateur endocrinien répond effectivement à des courbes de dose-réponse assez particulières et qu'en plus vient se greffer là-dessus l'effet cocktail? On ne maîtrise plus, on est incapable de prédire, on ne maîtrise plus l'effet d'un perturbateur endocrinien pris seul et individuellement. Et donc, c'est une catégorie de polluants à réglementer d'urgence. Voilà, je termine. Juste pour vous dire en conclusion, la déclaration du docteur Marianne Herra, donc directrice du département de santé publique à l'OMS, qui est récemment déclaré dans le dernier rapport donc, des Nations Unies pour l'environnement et de l'OMS, nous devons mener d'urgence davantage de recherches afin de mieux connaître les conséquences sanitaires et environnementales des perturbateurs endocriniens. Il nous incombe à tous de protéger les générations futures. Merci.